développement, il y a à peu près 8 sessions, donc ça prend 2 week-ends. Et j'ai développé juste un diaporama qui n'est qu'une partie de ce séminaire sur l'instruction de l'enfant. Et je vous invite à tourner en Proverbe chapitre 22 et verset 6. Proverbe 22 et verset 6. Alors, nous allons profiter du jour de la fête des pères pour parler sur la famille. Et on va regarder particulièrement l'instruction des enfants. Qu'est-ce que dit Dieu ? Alors, comme je vous ai mentionné, ce n'est qu'un morceau d'un puzzle qui, normalement, est un ensemble d'un séminaire. Mais en fait, nous allons essayer de regarder l'essentiel. C'est un peu une forme d'étude. Donc, excusez le côté technique, mais bon, voilà, j'ai fait ce choix. Essayez de vous concentrer sur l'étude et de penser quelque part à quoi ça me concerne. Alors vous allez dire, mais moi je ne suis pas encore marié. Ben, priez que vous le soyez. C'est peut-être plus proche que ce que vous pensez. Et puis vous dites, mais non, je ne suis pas encore prêt de me marier, je suis célibataire et vraiment le mariage pour moi c'est lointain. Eh bien, retenez cette instruction parce que peut-être qu'un jour, en étant marié, vous dites, ah oui, c'est vrai, mon pasteur avait dit cela. La parole surtout, d'accord. Et puis si vous êtes marié, ben, c'est vraiment pour vous. Vous avez peut-être des petits-enfants, c'est encore mieux pour vous. Vous avez peut-être des grands-enfants, ah ben c'est bien de le savoir pour instruire vos grands-enfants d'un jour marié qu'ils le fassent, d'accord ? Alors en fait, j'espère vous accrocher tous à la locomotive de ce verset qui dit, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Prions. Seigneur Jésus, merci de nous accompagner dans ce texte et de nous aider à simplement l'appliquer, d'être instruit de ta part pour savoir instruire nos enfants. Donne-nous la sagesse, l'intelligence spirituelle, au nom de Jésus. Et Père, nous te prions de nous cacher afin que tu sois vu, que tu sois glorifié, que ta parole pénètre dans nos cœurs et que nous te rendions grâce parce qu'elle est une lumière sur nos sentiers. Nous pouvons tellement facilement nous égarer. Mais merci pour ta parole qui veut nous instruire et nous conduire dans la façon d'élever nos enfants. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors le verset ici, il est très connu, mais parfois il n'est peut-être pas interprété de la bonne façon. Et nous allons essayer, je vais essayer de désagrafer toutes mes notes ici, de donner une application de ce passage. Alors, le verset qui est sous nos yeux ici, c'est donc 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». La première interprétation classique qu'on en fait, c'est que c'est une instruction qui permet donc d'élever l'enfant selon la voie qu'il doit suivre afin qu'il se porte bien par la suite. Donc, c'est un investissement pour l'avenir de l'enfant. Et c'est une règle générale, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des exceptions, parce que c'est connu qu'il y a des parents qui ont élevé leurs enfants avec sagesse, avec instruction, qui malheureusement, ces enfants-là n'ont pas toujours suivi l'instruction de leurs parents qui étaient modèles. Mais quelque part, on va dire souvent que les enfants reflètent les parents. La deuxième interprétation qu'on peut en faire, c'est un encouragement adressé aux parents de former donc l'enfant conformément à ses talents naturels et quelque part en application ne pas le forcer à choisir un métier pour lequel il n'a aucune prédisposition naturelle. Ici, c'est vrai que le mot instruire, on va y venir dans les détails, pourrait être traduit par éduquer, éduque ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Parce que quelque part, chaque enfant, selon son profil, sa personnalité, a une voie à suivre qui lui est propre. Et quelque part, on doit instruire l'enfant pour aller dans cet aspect. Et donc, ça demande aux parents de savoir connaître la personnalité de leurs enfants et leur individualité, quelque part, leur vocation, qui n'est pas liée à l'obstination de l'enfant, mais d'essayer de canaliser les talents et la personnalité, les qualités dont de l'enfant vers ce qu'il doit réellement être sa voie. Si un enfant doit être polytechnicien, ce serait dommage qu'il fasse un autre un autre diplôme. Mais si un enfant n'est pas fait pour faire polytechnique, il ne faut pas le pousser à devenir polytechnicien. La troisième interprétation est celle-ci. J'espère que vous arrivez à lire dans mon dos sur l'écran. C'est en quelque sorte un avertissement. Si on éduque un enfant dans la voie qu'il doit choisir, qu'il choisit lui-même de suivre, il risque de devenir gâté, égoïste plus tard dans la vie. Il ne faut pas se faire d'illusions en tant que parent. Nos enfants ont la nature d'Adam. C'est-à-dire qu'il y a la rébellion qui est attachée à leur cœur, il y a l'égoïsme qui est attaché à leur cœur, il y a l'orgueil qui est attaché à leur cœur, et toute espèce de mauvaises habitudes qui peuvent entrer dans leur vie s'ils ne sont pas instruits dans des bonnes habitudes. Alors, J. Adam, qui est un auteur très connu au niveau de la relation d'aide, a écrit ceci: « Ce verset n'est pas une promesse, mais un avertissement adressé aux parents. S'ils permettent à l'enfant de se former selon ses propres désirs, ils ne doivent pas s'attendre à ce qu'il change de façon de faire quand il sera adulte. Les enfants naissent pécheurs, et si on leur permet de suivre leurs propres désirs, ils finiront par cultiver de mauvaises habitudes. L'idée centrale du proverbe est que ces comportements coupables se sont ancrés en quelque sorte s'ils ont été encouragés chez l'enfant dès son plus jeune âge. » Donc c'est un avertissement à ne pas laisser l'enfant pousser par lui-même. Vous savez qu'il y a toutes sortes de philosophies dans l'éducation. Il y a ceux qui disent, surtout, laissez l'enfant faire tout ce qu'il veut faire. Il devient le roi de la maison et finalement ça aboutit à des caprices terribles, n'est-ce pas, où l'enfant devient roi de la maison. Je crois, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais je ne me souviens plus. Excusez si je répète une anecdote, mais notre voisine a eu un fils qui a eu un enfant. Et finalement, bon, il s'est séparé avec sa copine, il n'était pas marié. Mais la façon dont il levait l'enfant me paraissait terrible. La grand-mère était abasourdie. Alors, on mettait l'enfant à table. « Qu'est-ce que d'abord tu veux manger ?»« Oh, ben écoute, je veux manger ça. Oh, » ouais. Alors, les parents ou le père ou l'oncle, la tante se pliaient à faire exactement ce que la petite fille voulait. Elle se met à table, « Je ne veux pas ça. » Il recommençait à faire un autre repas. Et la grand-mère me disait, « C'est la folie. » Mais on ne doit pas enseigner les enfants à vivre leurs caprices. Et plus on laisse un caprice s'ancrer, plus on laisse un caractère se former chez l'enfant qui sera très difficile à redresser par la suite. Vous avez remarqué un arbre, moi j'ai quelques arbres dans le jardin, il y en a un. On a hérité du jardin quand on a acheté la maison. Le jardin avait déjà quelques arbres, beaux arbres, mais il y en a un qui a poussé tout croche. Mais ça fait 17 ans qu'on est là, ou je ne sais plus combien d'années. Savez-vous quoi? Il est toujours croche, l'arbre. Parce que dès le départ, tout petit qu'il soit, il n'a pas eu un tuteur, et aujourd'hui, il est tout de travers. On peut penser que c'est le vent, etc., mais il n'empêche pas moins que l'arbre est de travers. Donc, c'est très difficile à redresser un arbre qui pousse avec les années. Alors que si de suite on lui donne une conduite à suivre, une orientation, eh bien nous avons un résultat qui glorifie le Seigneur. Alors on va regarder ensemble, et j'ai mis tout ça en PowerPoint, donc vous l'avez sous les yeux, vous suivez plus facilement ainsi j'espère. En fait, une autre traduction est celle-ci: initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre. Initie le jeune homme à la voie qui doit suivre. On va définir ce qu'est l'enfant, jeune homme, à partir du texte original. Mais « initie », c'est le verbe hébreu correspondant, n'est-ce pas, habituellement « faire la dédicace » ou « inaugurer », qui se traduit ailleurs par « éduquer »,« orienter ». Donc, dans le sens de l'instruction, il y a le sens de l'éducation. Ce n'est pas simplement un enseignement, c'est une éducation. On aime bien le mot que l'on comprend tous et chacun, « apprentissage ». D'accord ? Une instruction, à la fois une connaissance, mais un savoir-faire, pas simplement un savoir, un apprentissage. Le jeune homme, bon, pourrait être traduit par jeune garçon, en fait, c'est un peu difficile, selon les commentaires, de savoir quelque part l'âge du jeune homme ou de l'enfant. Il y en a qui disent que c'est plutôt l'adolescent, et puis un homme jusqu'à 20 ans, et ceux qui disent c'est depuis 0 à 20 ans. En tout cas, l'idée, c'est que c'est un âge où l'instruction peut encore s'appliquer. En tout cas, c'est un âge où l'enfant est encore sous la tutelle des parents. Et puis, à la voie qui doit suivre, et retenez bien cela, parce que ça va être la base de la démonstration que nous allons faire ce matin, à la voie qui doit suivre, littéralement, sur la bouche de sa voix. Ce n'est pas dans le français, et c'est l'idée de la bouche dans le terme « selon ». Voilà, Michel a parlé selon, on raconte ce que Michel a dit, selon ses paroles. L'idée, c'est à faire avec la bouche. Vous allez voir pourquoi je souligne cela. En fait, c'est à la voix qu'il doit suivre sur la bouche de sa voix. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire, cela? On va le regarder dans un instant. Une autre traduction que nous avons ici, c'est « instruit l'enfant selon la voix qu'il doit suivre ». Le mot hébreu, c'est « shanak », initié, élevé, formé, mais aussi discipliné. En fait, le mot, le verbe « instruire » lié à l'expression « selon la voix », selon la voix, ça l'idée d'une allusion à la bouche et au palais. Vous dites, pourquoi vous dites ça? On va y venir dans un instant. C'est qu'en fait, il y a deux aspects à considérer au sujet de la bouche, donc dans ce verset, un aspect positif et un aspect négatif. Allez, vous me suivez? Oui? Ah, j'ai oublié de vous mettre ça sous les yeux. D'accord? Retenez cela dans le verset. On va voir qu'il y a, par rapport à la bouche, un aspect négatif, un aspect positif. On va commencer par l'aspect positif. On est d'accord que la bouche, c'est l'organe du goût et de la soif. Ainsi, la responsabilité des parents, c'est de créer un goût et une soif pour la justice, en enseignant à l'enfant que les bénédictions externes, le réconfort, la joie, le contentement, découlent de l'obéissance à la volonté de Dieu. Ce n'est pas révolutionnaire ce qui est mentionné là. Tout simplement, l'enfant doit prendre goût à ce qui est bon pour lui et pas ce qui est mauvais pour lui. On peut avoir bon goût et mauvais goût. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, je ne me souviens plus le titre de l'émission, j'ai regardé ça quelques minutes pour ma part, le concours des cuisiniers. C'est incroyable, le jury, lorsqu'ils goûtent, on dirait qu'ils ont des papilles qui ne sont pas les nôtres. Ils arrivent à trouver des goûts extra dans un tout petit truc tout petit en plus. Puis on dirait que plus c'est petit, meilleur c'est, semble-t-il, mais plus c'est cher. Je ne comprends pas toujours, mais bon, c'est comme ça. Ceci dit, ils ont des papiers extraordinaires. Dit, oui, là, on sent ça, on goûte ça, etc. Mais on peut avoir mauvais goût aussi, n'est-ce pas? Et sans le savoir, l'enfant doit avoir bon goût de prendre les choses qui vont lui faire du bien, vous avez saisi. En fait, la Bible dit, et c'est clair dans la parole, en psaume 119, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. L'enfant doit apprendre dès le jeune âge à avoir goût, vous avez compris, à la parole de Dieu. Il doit avoir envie de goûter à la parole de Dieu et d'y trouver sa nourriture. Pour un jour, quand il quitte la maison, savoir se nourrir et aller au bon endroit, se nourrir de la parole. Nous élevons les enfants, un jour ils quittent le nid familial, ils s'envolent, ils volent leurs propres ailes, façon de parler, parce que des fois, n'est-ce pas, quand on est parent d'enfants plus âgés, les enfants restent nos enfants, et nous restons les parents, avec des téléphones et des demandes de conseils, etc. On est parents à vie. Mais il n'empêche pas moins que le jour où l'enfant s'envole, quitte le nid familial, et en plus se marie, il doit avoir les éléments pour faire les bons choix. Être mûr pour prendre les bonnes décisions, avoir les outils nécessaires pour faire les bons choix avec la sagesse de Dieu. Et où va-t-il trouver cette sagesse? La parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. On est d'accord? Maintenant, l'esprit négatif. On n'aime pas trop parler de discipline et de restriction. Il y a des philosophes qui disent surtout, il ne faut pas annihiler la volonté de l'enfant. Vous allez le complexer, le rendre inférieur. C'est exactement l'inverse qui se passe. Un enfant qui n'est pas jalonné dans sa vie, avec des valeurs, il va tous azimuts, il est confus, il est malheureux, et finalement, il ne sait pas trop comment se comporter, il devient très insécure et manque de confiance, et tombe dans certains complexes. L'aspect négatif, alors je ne sais pas si vous allez trop m'accorder cette vérité, mais c'est la vérité qui semble sortir de cet aspect de ce verset, c'est en fait cette expression donc hébraïque est aussi utilisée relativement aux morts, une pièce du harnais qui passe dans la bouche du cheval qui sert à le diriger. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté à cheval, avait plus ou moins peut-être de succès, et vous avez essayé de tirer sur les rênes pour arrêter le cheval. Peut-être il vous a obéi, peut-être pas, hein. Ça dépend s'il est bien dressé ou si vous êtes un bon cavalier aussi. Cette pièce du harnais blesse le cheval quand il se rebelle. Et si vous regardez les courses de cheval, notamment les sauts, vous voyez bien que le cavalier, avec les rênes, n'est-ce pas, dirige vraiment le cheval grâce au mors qui est dans sa bouche. Et parfois, ça blesse ici parce que la bouche est sensible et le cheval est sensible. Un bon cavalier qui connaît bien sa monture sait comment diriger le cheval. Le cheval comprend exactement les directions du maître, du cavalier. Ce n'est pas un hasard. Le problème, c'est qu'on ne donne pas un cheval bien dressé à un mauvais cavalier, parce que le mauvais cavalier va lui donner tout un tas de signes qui ne sont pas bons et qui vont perturber ce que le cheval a appris. Et comment obéir à un vrai cavalier. Alors, cette expression fait allusion à l'enseignement que l'on donnait à l'enfant pour lui montrer les conséquences de l'entêtement et de la désobéissance. Il y a l'enseignement de la parole, si vous voulez, formelle, mais il y a les conséquences dues à la désobéissance qu'il faut faire comprendre à l'enfant dès le jeune âge. C'est la responsabilité des parents de conditionner un enfant, écoutez-moi bien, à se soumettre à la sagesse et au conseil de ses parents, aux anciens, à l'autorité et plus important encore à Dieu. Quand un enfant n'est pas enseigné au respect de l'autorité, non seulement il se rebelle contre Dieu, mais il se rebelle contre toute autorité, contre le maître d'école, contre le gendarme, contre n'importe quel représentant de justice et un jour contre son patron. Les enfants qui sont habitués à vivre dans la rébellion, lorsqu'ils entrent dans la vie, sont marqués par l'incapacité et un manque de maturité à se soumettre aux autres. La soumission, c'est le signe d'une vraie maturité. La rébellion, c'est l'esprit d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est tellement important d'apprendre à nos enfants à obéir. Alors, je ne peux pas développer cela à l'instant, mais on dit que la première fois, quand l'enfant pêche et qu'il se rebelle, disons, c'est lui qui pêche. Et il est réprimandé par ses parents. Mais quand les parents continuent à réprimander un enfant sans trouver le moyen réel pour le redresser, c'est eux qui pêchent. Parce qu'ils ne prennent pas les moyens que Dieu a donnés pour redresser l'enfant. En fait, la Bible est claire là-dessus, et ce n'est pas toujours très, très compris, mais la Bible dit « Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. » C'est vrai que la Bible dit qu'un enfant rebelle fait honte à son père et à sa mère. Et alors, il y a tout un séminaire sur le châtiment, même corporel, qui n'est pas le seul aspect de la discipline, je m'empresse de le dire, que je donne à partir de l'Épître aux Hébreux et du châtiment de Dieu comme père envers nous, ses enfants. Et on peut faire toute une analogie entre la façon avec laquelle Dieu nous châtie en tant qu'enfants et la façon avec laquelle les parents devraient redresser leurs enfants. Évidemment, ça veut dire que les parents, Dieu ne fait jamais d'erreur lorsqu'il nous redresse, n'est-ce pas ? Mais nous, parents, nous pouvons faire des erreurs. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Bon, j'espère quand même. Mais aujourd'hui, vous savez, quand on parle de discipline physique, il y a de grands malentendus. Les gouvernements font des lois qui réprimandent les parents qui châtieraient leurs enfants physiquement, parce qu'il y a de l'abus chez des parents. Ils confondent châtiment physique avec violence, avec colère. Le châtiment physique a pour but de redresser l'enfant et toujours fait avec amour. Mais dans le monde séculier, le châtiment est parfois synonyme de violence parce que frustration du père ou de la mère et pas dans le but d'aimer l'enfant pour qu'il se redresse. Et c'est souvent fait par la colère et pas avec amour et équilibre. Donc, les lois parfois sont données parce qu'il y a des abus. Ça ne veut pas dire que la vérité de châtier un enfant physiquement n'est pas de Dieu. Mais on n'a pas dans nos gouvernements des gens sages qui lisent la Bible et qui disent voilà ce que devrait être l'éducation des enfants. Et le châtiment physique n'est qu'une portion relativement faible de l'éducation des enfants si ce n'est important entre 0 et 6 ans. Enfin, 0, vous comprenez. Hein, 0, pas 0, quelques mois quand même. Mais il faut avoir de la sagesse. C'est proportionnel à la faute. Mais vous savez, Dobson, je ne sais pas si vous avez lu ses livres, notamment un livre qui s'appelle « Oser discipliner », dit clairement qu'il est prouvé aux États-Unis que la délinquance est proportionnelle au manque de châtiment physique dans les foyers. C'est incroyable, ça. Il a fait des statistiques et c'est prouvé que les enfants qui ne sont pas redressés dans leur foyer ont une plus grande tendance à devenir délinquants. Mais quand un enfant est livré à lui-même et puis les parents se moquent de le laisser dans les boîtes de nuit, les sorties où il y a les filles, l'alcool, les gars, la drogue, etc., cette liberté est excessive et manque d'un vrai amour envers les enfants. Alors, en résumé, oui, c'est ça. C'est difficile à lire là. Instruire un enfant est une double responsabilité pour les parents. C'est du bon sens tout cela, je pense qu'on est tous d'accord avec cela. Premièrement, les parents doivent développer dans leurs enfants le goût et la soif de la justice par l'enseignement de sa parole et par l'exemple qu'il donne. Il y a parfois, il faut le dire, des enfants qui souffrent parce que le modèle qu'ils ont ne correspond pas à ce que les parents disent. Et ça crée chez l'enfant de l'hypocrisie parce qu'il voit l'hypocrisie chez les parents. Et de la rébellion, de la rébellion. Ils doivent exiger que les enfants leur soient soumis ainsi qu'aux anciens. Comment voulez-vous que des enfants qui ne soient pas soumis à la maison soient ensuite soumis dans leur vie, dans leur cas, notamment scolaire ? La plupart des professeurs aujourd'hui, alors dans mon cas, je trouvais parfois que la discipline était excessive. Dans les écoles où j'étais, surtout jeune, bon, je trouvais des fois que la discipline était faite pour plutôt humilier que pour redresser avec amour. Mais l'autre excès maintenant, c'est que les parents sont tellement défectueux par rapport à l'éducation de leurs enfants que quand les enfants entrent en classe, le professeur dit « je passe 50% de mon temps, de l'heure que j'ai pour enseigner, à essayer de redresser et à mettre la discipline dans la classe ». Les professeurs se plaignent aujourd'hui du manque de discipline en classe. Ils sont en partie responsables, mais la plus grande responsabilité, ce sont les parents. L'école n'est que le prolongement de ce que l'éducation devrait être à la maison. Nous avons donné à l'État la responsabilité d'élever les enfants. C'est une grave erreur. L'éducation, ça a à faire avec les parents, d'abord. Et l'école devrait être le prolongement de l'éducation à la maison. Et malheureusement, vu l'indiscipline généralisée, les professeurs ont de plus en plus de mal à passer la matière jusqu'à se faire parfois taper dessus, qui sont des extrêmes, certes. Vous savez pourquoi les inspecteurs de permis de conduire ne donnent plus le résultat immédiatement après l'inspection ? Parce qu'ils ont peur de se faire taper dessus. Et c'est déjà arrivé. Des jeunes rebelles et qui ont agressé l'inspecteur parce qu'il refusait de leur donner le permis. Bon, c'est pas chrétien, ça. Hein. Alors, vous comprenez l'idée. Donner goût et soif au palais, créer chez le goût chez l'enfant d'aimer ce qui est droit, d'aimer ce qui est juste, d'aimer ce qui est bon pour lui. Mais aussi, en même temps, de redresser. Alors, le mort, on n'aime pas trop ça. L'idée de... Hein, mais la blessure, la discipline est nécessaire chez l'enfant. Donc nous avons deux versets que j'aimerais vous donner. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Je crois que la plus grande joie des parents et le plus beau résultat que nous pouvons avoir, nous parents, c'est de voir nos enfants aimer la parole de Dieu. Voir nos enfants avoir soif de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, mais aussi d'avoir soif de Dieu, d'aimer Dieu. Je pense que c'est la plus grande récompense qu'on peut avoir sur terre, des enfants qui aiment Dieu et qui lui obéissent, qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et la Bible dit aussi, celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc, dans la discipline, il y a toujours l'aspect de l'amour. Lorsqu'il y a correction sans amour, eh bien, ce n'est pas une véritable correction. C'est peut-être une réaction de frustration de la part des parents, mais ce n'est pas une véritable correction. Il faut corriger avec... Bon, je dis un petit mot parce que je ne voudrais pas être mal compris. Lorsqu'on parle de châtiment physique, le père ou la mère doit prendre le temps, du recul, isoler l'enfant, il lui fait comprendre qu'il va être puni, et ensuite arriver vers l'enfant, lui expliquer pourquoi, s'il peut comprendre, sinon ce n'est pas la peine d'aller dans les détails, et parce qu'il comprend de toute façon inconsciemment qu'il a, il sait qu'il a fait mal et il va être corrigé, et puis de le corriger au bon endroit postérieur avec amour. Et voilà, maintenant on avait un de nos enfants un jour qui m'a joué un tour, je le punissais, on avait établi une espèce de bâton flexible sur les fesses pour pincer, hein. Pincer, pas frapper avec violence, je m'entends, d'accord. Et puis il riait. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il avait mis 2 jeans et 3 sous-vêtements et il était très fier de m'avoir rusé comme ça. Mais je peux vous dire que quand les enfants sont corrigés avec amour, après il faut leur donner le temps un peu de respirer et puis ils reprennent leur bon sens et ils deviennent joyeux. Un enfant qui n'est pas corrigé est livré à lui-même. Et la Bible dit, moi, ça me, en tant que jeune papa, ça me terrifiait quelque part. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc quand on ne corrige pas ses enfants, c'est comparé à un manque d'amour qui est de la haine. C'est fort comme langage, cela. Donc ça veut dire qu'il faut haïr pas son enfant, mais il faut haïr l'attitude de l'enfant, comme on devrait haïr nos propres péchés. On est prêt à corriger nos enfants, mais il faut haïr nos propres péchés. Il faut avoir la haine du mensonge, par exemple. Ne pas laisser le mensonge s'installer chez un enfant. Je me souviens de mes enfants qui me racontaient combien de ses copains de classe racontaient, mais ils fabulaient. Ils mentaient tellement qu'ils ne savaient même plus qui mentait. Ils inventaient des mensonges pour couvrir ses mensonges, puis ils pensaient tellement dire vrai qu'ils ne savaient même plus qui mentait. Le mensonge doit être corrigé de suite chez le jeune. C'est un exemple, n'est-ce pas? Mais il faut que le mensonge aussi soit banni de la vie des parents et que les parents soient intègres dans leur comportement et leur langage. Alors les deux, oh là là, le temps passe à mon avis. Les deux aspects de la discipline parentale. Il y a un côté qu'on appelle l'encouragement, l'instruction, donner l'exemple. C'est renforcer l'enfant dans le côté positif. Il y a trop de parents qui ne savent pas donner des mots d'encouragement. Ils font encourager l'enfant. Tout le monde ne peut pas être polytechnicien, mais là où l'enfant... c'est un exemple dans la matière de l'instruction. Mais là où l'enfant se situe, on peut l'encourager. Puis ce n'est pas simplement l'instruction qui compte, c'est le comportement, l'humilité, la patience, rendre service, savoir dire une parole positive aux autres. Il y a toutes sortes d'encouragements qu'on adresse aux enfants pour renforcer leur qualité et leur désir de bien faire. Alors c'est connaître les dons et les talents, et là il y a un besoin chez les parents de connaître les dons et les talents des enfants, connaître leur tempérament et leurs points positifs. Ça prend du temps de connaître son conjoint. Ma chère épouse, dont l'anniversaire était hier, entre parenthèses, nous sommes mariés depuis 33 ans, c'est ça chérie? Et on apprend encore à se connaître. Je croyais vraiment connaître ma femme après 33 ans. Et je découvre encore mon épouse, et elle aussi, je suppose. Et on a besoin d'apprendre encore à mieux s'aimer. C'est merveilleux, là, après 33 ans. Il y a toujours place, il y a toujours un boulevard de pouvoir aimer encore mieux. C'est un apprentissage. Mais les enfants, nous devons prendre le temps de les aimer, de les connaître. Passer du temps avec eux, faire du sport, faire toutes sortes de choses, la lecture, enfin, les hobbies des uns et des autres, les dadas. Et puis, il y a l'autre aspect qui ne doit pas être négligé, contraint, discipliné, c'est connaître leur penchant pour le mal, connaître leur tempérament et leurs points négatifs. Je dis ça rapidement, on a eu, vous le savez, 6 enfants. Donc on a dû se spécialiser un peu dans l'éducation des enfants pour essayer de faire au mieux. Et sur les 5 garçons, il y en avait un, à peine on lui adressait la parole en élevant le ton, oh, il commençait à pleurer, oui, oui, papa, oui. C'était assez rapide la correction. Et puis il y en avait d'autres, ouais. Et pourtant, Dieu les a transformés. Hein. Mais Dieu nous a aidés à... Je pense que Dieu veut utiliser la main du papa et de maman des fois généreuse. Enfin, comment est-ce que je veux dire, hein? Voilà. Alors, il y a un aspect ici qui est formidable. Pour créer une image, vous savez, dans... Allez, je me lance et je vais vous garder des heures là. Mais il y a, en France, on a une mauvaise façon d'élever les enfants, qui est l'élitisme et j'allais dire le négativisme. Moi, j'ai visité les parents, je pourrais vous parler des heures là, mais franchement, les professeurs, on va voir les professeurs, et puis ils regardent leurs notes, bon, ça va, bon, là peut-être. Mais ils ne connaissent pas nos enfants. C'est terrible cela. Et ils créent une pression par rapport aux nôtres, mais sans connaître l'enfant. Puis il n'y a pas de mot d'encouragement. Une fois, je suis allé voir un prof, j'ai dit, écoutez, là, mes enfants ont quelques difficultés, là, pourriez-vous l'encourager? Il fait un effort de progresser. Donnez-lui donc un mot d'encouragement. J'ai demandé à 4 professeurs d'encourager un de mes enfants. Savez combien ont encouragé l'enfant? 0. Parce qu'en France, on a l'art de dire les choses négativement. On est négatif. Et on est un peuple qui râle. C'est pas vrai? Regardez les cheminots. La grève partout. Non, mais vous parlez dans d'autres pays, lorsqu'on parle de la grève en France, il y a même des touristes qui ont peur de venir en France à cause de la grève. On fait la grève partout. Même des fois, les gens font la grève, ils ne savent même pas pourquoi. Mais on fait la grève parce qu'on est des contestataires. C'est une situation... entre parenthèses, économique où on est, on se demande si c'est la bonne chose de faire des grèves et des grèves et des grèves. Bon, j'arrête là parce que je vais faire un autre discours. Mais en même temps, l'enfant, voilà, un merveilleux verset. C'est toi, je ne l'ai pas lu le verset, excusez encore. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Il y a un autre verset, par contre. Non, c'est pas là. Est-ce que... Oui, c'est bon. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est David, il ne se faisait pas d'illusions sur sa nature pécheresse. Et pourtant, lui-même, il dit, je suis une créature merveilleuse. Allez voir quelqu'un dans la rue, il dit, tu sais, je suis une créature merveilleuse. Je dis, celui-là, il faut l'enfermer. Mais on est merveilleux devant Dieu parce que Dieu nous a créés. C'est extraordinaire, la biologie du corps. C'est une créature, on est des créatures merveilleuses. Puis, régénérer encore, c'est de toute beauté, hein. Mais dans le cœur, si le cœur n'est pas régénéré, je suis né dans l'iniquité. Pas d'illusion sur la nature humaine. Plus on va dans l'âge, plus on s'aperçoit que la nature humaine est vraiment corrompue. On ne peut pas se faire d'illusions, même chez les chrétiens, bien-aimés. C'est pas vrai? Chez les chrétiens, c'est pareil. Si on laisse la nature humaine se manifester, eh ben, c'est la nature humaine. Point. On ne peut pas dire plus. Alors, parents, excusez, je dois aller plus vite là, je vous donne tout là. Allez, lisez avec moi. Reconnaissez les dons et les talents de votre enfant ainsi que les aspects positifs de son tempérament, c'est-à-dire patience, humilité, compassion, et enseignez-lui comment les appliquer. Encouragez, complimentez l'enfant lorsqu'il agit bien. Soyez conséquent dans votre propre exemple de piété. Et puis le côté, donc, le côté 2. Côté négatif, reconnaissez les penchants pour le mal, les faiblesses et la folie dans votre enfant, c'est-à-dire rébellion, mensonge, égoïsme, susceptibilité, découragement. On a tous des faiblesses. On dit les enfants de Dieu, ils ont des faiblesses. Bon, c'est ma faiblesse. Ouais, mais la faiblesse, ça se remet à Dieu. Et Dieu veut nous transformer et c'est le processus de sanctification. Et donc, on doit accepter que nos faiblesses, oui, par tendance, par nature, on va peut-être vers certaines choses qui n'est pas peut-être chez un enfant la même chose que chez un autre. Et on doit donc essayer de redresser, d'être nous-mêmes assez mûrs pour discerner les tendances de nos enfants négatives, pour les redresser avec amour. Mais ça demande une certaine maturité et connaissance de la nature humaine, du cœur humain. Mais avec l'Esprit de Dieu, c'est possible. Avec l'amour de Dieu, c'est possible. Avec la sagesse de Dieu, c'est possible. Enseignez, instruisez l'enfant à neutraliser, à compenser ses faiblesses. Châtez-le s'il permet à sa nature pécheresse de dominer ses pensées et son comportement. Un enfant livré à lui-même fait honte à son père et sa mère. Dans le but de chaque parent devait être d'instruire un enfant à tenir ses pensées et son comportement en bride. Alors, je vous lis au moins un verset qui n'a pas encore apparu ici. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si quelqu'un ne bronche point parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. On est d'accord qu'on a besoin d'être bridé. Même nous, les adultes, on a toujours besoin d'être réprimandés par le Seigneur, de lui laisser l'œuvre, son œuvre, accomplir ses desseins dans nos vies et d'être bridés. Parfois, c'est dur, on se révolte, mais on a besoin d'être bridés et à bien connaître ses jours, à faire confiance au Seigneur, à être bridés, en attendant d'être complètement débridés dans l'éternité pour être avec lui, complètement libérés de la nature pécheresse et être dans le paradis de Dieu à jamais. Alors, je vous ai expliqué ce que t'es déjà l'enfant, je vais passer selon la voie qui doit suivre. Alors, brièvement, je dois aller plus vite, mais chaque enfant a sa propre voix. Dans l'hébreu, c'est derek, c'est une voix quelque part unique qui correspond au tempérament de l'enfant, son mode de vie particulier, sa manière de vivre, ses caractéristiques. En fait, c'est sa personnalité. Un parent doit respecter sa personnalité. Le problème parfois des pères, c'est qu'on est tellement ambitieux qu'on voudrait que nos enfants nous ressemblent ou mieux, fassent tout ce que nous, on n'a pas pu faire. Donc, des parents peuvent mettre des pressions sur les enfants d'être à un niveau qui ne correspond pas à leur capacité ou à être tout simplement ce qu'ils ne sont pas parce qu'ils n'ont pas les talents ou les dons de notre frère, de notre sœur ou de leur père ou de leur mère. Et ça demande beaucoup d'amour. Vous avez remarqué, vous parents, que les enfants sont le mélange des deux ? Il n'y en a pas un qui ressemble à 100% au père ou à la mère. Et même si c'est physiquement, il a le tempérament mélangé ou le tempérament de l'autre. Dieu nous joue des tours comme ça, vous savez. Et même, je pense qu'ils héritent des grands-pères, des arrière-grands-pères. Donc, ça veut dire que les gènes étant très complexes, on hérite de toutes sortes de choses dans nos vies en naissant. La nature humaine, la personnalité, on dit, bon, Tim LaHaye dans son livre Les tempéraments, les caractères, dit qu'il y a 4 types de caractères, mais ce n'est pas évident de trouver toujours le caractère et les tempéraments des uns et des autres. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on ne doit pas laisser la rébellion s'installer dans le cœur d'un enfant. Alors, j'aimerais terminer en vous donnant quelques citations. Ça va ? Vous me laissez quelques minutes, c'est presque fini. Citation de John MacArthur. Il n'y a qu'une voie juste, c'est la voie de Dieu, selon la voie qu'il doit suivre, celle de la vie. C'est opposé à celle de la mort. Elle est exposée de façon détaillée dans les proverbes. C'est vrai que dans les proverbes, les 31 chapitres, vous avez la voie de la sagesse, la voie de la folie. La voie du salut, la voie de la rébellion. La voie de la vie, la voie de la mort. Lisez les proverbes, les 31 chapitres, vous allez voir tout un tas de contrastes dans les versets qui s'opposent, qui montre la mort et la vie, la sagesse et la folie ou la rébellion. Étant donné qu'une formation précoce crée de bonnes habitudes pour la vie entière, les parents doivent enseigner cette voie à leurs enfants en leur faisant découvrir la parole de Dieu dès leur plus jeune âge et compléter cet enseignement par une discipline pleine de tendresse et cohérence. Et cohérente. En fait, la discipline doit être là, mais avec beaucoup d'amour. Et j'aimerais vous donner une situation d'une dame extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez John Wesley, le grand prédicateur méthodiste. Il avait une épouse, Susan Wesley, pleine de bon sens, qui avait une multitude d'enfants. Je ne me souviens plus le nombre, désolé. Mais je pense que c'est très élevé, mais je ne me souviens plus du nombre. Susan, c'est ça. Mais je ne me souviens plus du nombre d'enfants qu'elle avait. Je sais que Bach en avait 16. 16 enfants, c'est beaucoup. Hein? Suzanne en avait aussi une bonne portée. Premièrement, elle donne les 6 règles. Je peux avoir un petit peu de verre d'eau, merci. Premièrement, soumettre la volonté propre de l'enfant et agir de concert avec Dieu pour le salut de son âme. Deuxièmement, lui enseigner à prier dès qu'il sait parler. Les parents disent, oh, nous, on n'amène pas notre enfant à l'église parce qu'il faut qu'il fasse son choix. Ben, nous, on n'a pas donné le choix à nos enfants. Ils sont venus à toutes les réunions avec nous et ils n'ont jamais discuté d'aller ou non à la réunion. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris cette bonne habitude. ne pas lui donner ce qu'il réclame, mais seulement ce qui est bon pour lui et s'il demande poliment. Merci. Interdire le mensonge, ne pas punir une faute confessée spontanément, mais ne jamais passer sous silence un acte rebelle et coupable. Féliciter et récompenser un bon comportement, tenir toutes les promesses faites à l'enfant. Je peux vous donner tout le PowerPoint si vous voulez, si vous n'avez pas eu le temps de noter, je suppose, mais c'est des bonnes règles. Vous qui avez des jeunes enfants, retenez cela. Et vous qui êtes plus âgés ou grands-parents, enseignez vos enfants, enseignez à leurs propres enfants ces 6 règles de Susan Wesley, la mère de Charles et de John Wesley. Et il est écrit en conclusion, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors en principe, on peut s'attendre, lorsqu'on élève les enfants selon le Seigneur, à ce qu'ils ne se détournent pas du Seigneur. Ce n'est pas une règle générale, il y a des exceptions, mais en général, les enfants élevés selon le Seigneur, et lorsqu'ils sont habitués à être corrigés par le Seigneur, à ce moment-là, et par les parents, ils marchent plus droit que les autres. Il y a un prédicateur qui a dit « Il n'est pas difficile de corriger un enfant ou un arbre pour qu'il se développe droit si on le fait dans leur jeunesse. Les redresser après avoir laissé se développer le mal est beaucoup plus difficile. » Et il y a la traduction de parole vivante pour Proverbe 22:6 « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années et il les gardera même dans sa vieillesse. » Une dernière diapo, c'est bon ? C'est écrit une heure sur l'horloge, mais ce n'est pas vrai, c'est midi, n'est-ce pas ? Hein ? C'est midi. Midi 5, d'accord. Lisez ça avec moi. Enfin, je vais le lire à voix haute pour l'enregistrement. Mais lisez et puis essayez de retenir cela. Quelqu'un a dit, si un enfant vit dans la critique, il apprend à condamner. Si un enfant vit dans l'hostilité, il apprend à se battre. Si un enfant vit dans le ridicule, il apprend à être gêné. Si un enfant vit dans la honte, il apprend à se sentir coupable. Si un enfant vit dans la tolérance, il apprend à être patient. Si un enfant vit dans la louange, il apprend à être confiant. Si un enfant vit dans la justice, il apprend à être juste. Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend à avoir la foi. Si un enfant vit dans l'approbation, il apprend à s'aimer puis à aimer. Si un enfant vit dans l'acceptation et l'amitié, il apprend à trouver l'amour dans le monde. C'est un poème qui a été donné. C'est tout un programme, n'est-ce pas ? Qui est suffisant pour élever les enfants selon le Seigneur ? La Bible dit en tout cas, et retenez cela, essayez d'étudier vous-même, lire des livres sur l'éducation des enfants selon Dieu. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est une règle générale. Parfois, les parents souffrent de voir leurs enfants pas suivre le Seigneur. Mais la règle générale, c'est instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il n'y a pas de plus grande joie, comme disait l'apôtre Jean, de voir ses enfants marcher dans le Seigneur. C'est la plus belle récompense que les parents, nous pouvons avoir, de voir nos enfants aimer le Seigneur, marcher avec le Seigneur, aimer la parole de Dieu. Amen.